Le journal du soir avec vous, Stéphanie Wenker, bonsoir.
Bonsoir. Avec la montée des eaux du lac, la situation reste tendue pour la steppe de Neuchâtel. Pour éviter de surcharger les canalisations avec des eaux usées, le match de Challenge League entre Neuchâtel, Xamax et Arreau ce vendredi est reporté, une décision préventive. Le variant Delta continue de progresser en Suisse avec près de 3/4 des nouveaux cas. Le moment de se demander si la vaccination pourrait devenir obligatoire dans le pays. Young Boys entame sa campagne européenne ce soir. Le club bernois affronte Slovan Bratislava dans le cadre des qualifications pour la Ligue des Champions. Le premier pas d'une saison qui s'annonce bien rempli. Les températures resteront encore chaudes jusqu'à ce week-end avec près de 28 degrés attendus sur le littoral. Le mauvais temps reviendra dès samedi. La station d'épuration des eaux du lac de Neuchâtel ne fonctionne pas normalement en raison de la crue du lac. La population ne court aucun danger, mais la situation reste tendue, raison pour laquelle la rencontre de Challenge League de football entre Neuchâtel Xamax et Arreau, prévue vendredi au stade de la Maladière, est reportée. D'une part, le parking est impraticable en raison de son inondation. D'autre part, les responsables ne veulent pas surcharger certaines infrastructures déjà fortement sollicitées. Le public serait amené à utiliser les toilettes et potentiellement surcharger les canalisations en eau usée. Antoine Benacloche, ingénieur communal à Neuchâtel.
C'est vrai qu'on a beaucoup d'illusion parce qu'on a énormément d'eau qui est venue en plus. La station d'épuration, dans son état actuel, par les premiers procédés d'épuration, parce qu'il y a toute une chaîne d'épuration, les premiers procédés fonctionnent normalement, à savoir on retient les déchets les plus grossiers dans les différentes grilles ou tamis qui sont à l'entrée de la station d'épuration. Donc ça, c'est fait aussi. On a le système primaire d'épuration qu'on appelle de la décantation. Là aussi, aujourd'hui, on estime que la steppe épure à peu près à hauteur de 70% par rapport à une épuration optimale telle qu'on l'a. Donc, il y a quand même un effet, une efficacité, mais les autres traitements, qui sont des traitements biologiques, comme on les appelle, sans aller trop dans le technique, ben, on ne peut pas les activer aussi par rapport aux conditions, au niveau d'eau que l'on a en fonction de la position qu'on a au niveau de la station d'épuration aujourd'hui. Puisque, vous le savez, on va faire pas mal de travaux au niveau de la station d'épuration, on aura des conditions qui seront plus favorables si une telle situation devait se représenter par la suite.
Aucune date n'a pour l'instant été arrêtée pour la rencontre Neuchâtel-Xamax-Arreau. En revanche, les Rouges et Noirs disputeront un match amical à Chafouze vendredi sur le coup de 14h30. Et depuis les crues impressionnantes constatées la semaine dernière, c'est vers le barrage de Porte dans le lac de Bienne que tous les yeux sont tournés. Le système de régulation y est mis en place. Il permet de réduire l'impact des crues dans la région des Trois Lacs en agissant directement sur le débit de l'Ar. Tout est dans la quantité d'eau pouvant s'évacuer depuis le lac de Bienne vers l'Ar et c'est cet instrument qui est utilisé depuis la semaine dernière. Ces crues entraînent également un travail de titan sur de nombreux lacs suisses, par exemple avec la récolte du bois flottant suite aux intempéries. Au lac de Bienne, plus de 1000 mètres cubes ont déjà été récupérés. Mais comment se déroulent les opérations de nettoyage et pourquoi est-ce si important d'évacuer ce bois flottant? La réponse de Christophe Knegi, porte-parole de la police cantonale bernoise.
Il est très important de sortir et ramasser ce bois flottant parce qu'à Port, on a l'écluse et puis c'est très important pour le réglage des niveaux des trois lacs ici, mais aussi des lacs dans Berner-Oberland, lac de Thun, lac de Brienz. Donc c'est un système. Il y en a d'autres parages aussi dans le reste du canton de Berne et c'est très important qu'ils ne soient pas bloqués par le bois pour que l'eau puisse passer et les niveaux finalement puissent descendre.
Le bois il est ensuite ici amené à Douane, on se situe. Qu'est-ce qui se passe ensuite avec ce bois?
Donc il y a des camions qui viennent ramasser et puis après, soit on les met sur une installation compost, soit ils seront récoltés après, usés pour chauffage.
Est-ce qu'on a une idée des quantités de bois qui ont été amassées ces derniers jours?
Bon, une estimation exacte, c'est difficile parce qu'on ne sait pas encore où il y a ce bois qui est entré dans les roseaux par exemple. Mais jusqu'à présent, tant le lac de Bienne ainsi que les deux lacs au Berner-Oberland, dans le canton, a sorti jusqu'à présent 2000 mètres cubes de bois. Estimation, pas exacte, mais on part du principe qu'il y a environ 4000 mètres cubes de bois flottant encore dans le canton.
Des propos recueillis par Alexandre Michler, les travaux d'évacuation de ce bois flottant vont prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et puis bonne nouvelle, le niveau du lac de Bienne, comme celui du lac de Neuchâtel, continue de baisser gentiment mais sûrement. Le ballet des grues et des ouvriers a débuté depuis début juin à Corcelles-Gormont-Drèche. La ficelle doit accueillir piétons et vélos d'ici 3 mois le long des voies CFF. Cette piste de mobilité douce mixte reliera le village à la gare de Corcelles-Peuzeux. Le chantier profite de l'interruption de la ligne entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds qui dure jusqu'à fin octobre. Ces travaux sur une durée d'un kilomètre doivent aussi respecter des règles de construction strictes édictées par les CFF. Écoutez Claude Giovanelli, chef de projet de la ficelle.
Dans le cas qui nous concerne, c'est un peu allégé étant donné qu'il n'y a pas de trafic CFF, mais ça n'exclut rien. Donc ils sont là, ils sont attentifs. Et ils nous disent quand il faut corriger ou bien adapter certains éléments.
Est-ce qu'il y a des contrôles pendant les travaux ?
Les CFF font des contrôles en général toutes les semaines. Pas de nouvelles de leur part, tout va bien. Et puis, si le cas échéant, s'il y a quoi que ce soit, ils nous transmettent avec les éléments qu'il y a à corriger ou à modifier.
On a parlé des délais relativement courts pour réaliser la construction de la ficelle. Est-ce qu'il y a plus de machines ? Est-ce qu'il y a plus de personnel ?
L'équipement est renforcé, c'est évident. Le personnel également. Les mesures d'accélération qui ont été prises nécessitaient la pose d'une deuxième grue afin de faciliter les travaux au niveau du passage inférieur. Et puis après, c'est une question d'organisation. C'est un flux tendu, c'est des décisions qui se prennent rapidement et puis qui permettent de ne pas perdre de temps à ce niveau-là.
La ficelle se glisse entre les rails et les habitations, un espace exigu qui doit mesurer au minimum 3 mètres de large. La construction doit donc parfois empiéter sur des terrains privés. Guillaume Torrent, ingénieur communal adjoint à la ville de Neuchâtel.
Il y a eu des discussions avec certains riverains pour pouvoir avoir des largeurs qui sont conséquentes, qui sont nécessaires pour que la piste soit considérée mixte piéton-vélo. Pour garantir la sécurité des circulations. Donc là, il y a eu des discussions avec certains riverains, avec les CFF aussi, puisqu'on reste en grande partie sur du terrain CFF. Et là, on a eu l'accord des CFF de pouvoir construire cette ficelle à proximité.
Ce dossier a été réalisé par Léo Tikeli. Le crédit voté pour la construction de la ficelle s'élève à 3 200 000 francs. Un voyage retour 2 ans plus tard. Une cinquantaine de cyclistes ont pris la route hier à Grenot dans les Grisons pour rallier la Brévine. Il y a 2 ans, ils avaient fait le voyage inverse afin de commémorer le 15e anniversaire de la commune ayant enregistré la température la plus élevée au niveau national à 41,5 degrés. C'était le 11 août 2003. La Brévine étant la commune qui a enregistré la température la plus froide avec moins 41,8 en janvier 1987. Nous avons joint cet après-midi sur la route de Brigue Jean-Maurice Gasser, président de la commission du tourisme de la Brévine et organisateur de la manifestation pour la commune.
On a fait Airolo le premier jour, environ 70 km, une bonne montée quand même, 2000 mètres. Et puis aujourd'hui, c'était la deuxième grande étape, la traversée des Alpes, depuis Airolo jusqu'à Viège. Et nous avons traversé le Nufenen, tout le monde a passé, c'est bien allé. Jusqu'à présent, tout le monde est en forme. Et puis on est en train de descendre sur Brigue et on va rejoindre Viège pour notre deuxième étape. Et ensuite on fera Martigny, Lausanne et on finira samedi avec la Brévine.
La population de Moutier poursuit son inexorable érosion. Le nombre d'habitants était encore à plus de 7700 fin 2014. Il a chuté chaque année depuis pour passer aujourd'hui sous la barre des 7400. Les autorités s'en inquiètent. Elles y voient surtout un problème de manque de logement, d'un certain standing et d'insécurité économique. Impossible de le nier, la question jurassienne a aussi pesé. Et d'ailleurs, de nouveaux départs de citoyens déçus sont attendus après la décision populaire du 28 mars de rejoindre le canton du Jura. Le maire de Moutier, Marcel Winisterfer, en est conscient, mais il voit la lumière au bout du tunnel.
On va encore souffrir cette année, l'année prochaine, peut-être encore 2 ans. Ensuite, ça se stabilisera et ça passera dans l'autre sens. Ça, j'en suis convaincu. On ne peut pas retenir les gens. Si les gens ne veulent pas rester, voilà, pour les questions qui leur appartiennent, je le comprends moyennement, mais voilà, j'entends, c'est de leur droit, puis on est bien obligé de l'accepter. On fera avec les personnes qui resteront à Moutier, et je suis convaincu qu'on va retrouver rapidement des chiffres comme on les a connus maintenant.
Il y a cette érosion démographique, on le voit aussi dans les chiffres, hein, sur les votations communales ces 10 dernières années, le nombre d'ayants droit qui a aussi diminué. J'imagine que c'est quelque chose qui ne vous surprend pas.
Non, ça ne me surprend pas. Je suis conforté dans ce que je pensais. Vous pensez bien que les personnes qui ont surveillé le vote auraient réagi autrement si ça avait été le cas. Donc il n'y a absolument aucune suspicion à avoir sur ces nombres-là, sur ces chiffres-là. Au contraire, ils indiquent vraiment que tout s'est parfaitement déroulé à Moutier, puisqu'il y a toujours moins d'ayants droit. Ça suit exactement la même courbe. On a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens pour essayer de trouver une situation qui ne jouerait pas, mais en fait, non.
Un sujet proposé par Olivier Zano. Le variant Delta continuera d'être prédominant ces prochains mois. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce variant est désormais présent dans 124 pays. Aujourd'hui, il est à l'origine des trois quarts des nouveaux cas de Covid dans de nombreux pays, comme par exemple en Suisse. Et la Suisse qui compte d'ailleurs aujourd'hui 773 nouvelles infections au Covid-19. Avec l'augmentation de la présence du variant Delta, la question d'un éventuel changement de stratégie pour augmenter le taux de personnes vaccinées peut désormais se poser. Les autorités fédérales pourraient être tentées de vouloir passer de la carotte, ou plutôt du gâteau, distribué lundi sur la place fédérale, au bâton. La vice-présidente de la task force scientifique de la Confédération met en garde contre les idées simples. Pour Samia Hurst, il n'existe pas que les pros et les anti-vaccins de la population.
On a en Suisse, parmi les personnes encore non vaccinées, beaucoup plus de diversité que ce qu'on imagine parfois. On a tendance à se faire une sorte de polarisation aussi dans nos têtes. Les personnes sont soit vaccinées, soit elles sont opposées à se faire vacciner. Évidemment, la réalité est beaucoup plus complexe que cela. Il y a des personnes qui souhaitent se faire vacciner, mais qui ont des difficultés d'accès. Il y a des personnes qui attendent encore parce qu'elles n'ont pas encore eu de rendez-vous. Il faut aussi faire du travail de rendre aussi accessible que possible cette fameuse accessibilité à seuil le plus bas possible, parce qu'on a tendance à sous-estimer la difficulté que peuvent avoir certaines personnes à faire ce qui paraît évident pour la plupart d'entre nous, à savoir prendre un rendez-vous en ligne et se rendre dans un centre de vaccination pour y recevoir nos injections. Ça, il y a des multitudes d'obstacles pour certaines personnes qui se dressent entre elles et cette action.
Autre idée émise dans certains milieux politiques, faire payer tous les tests aux personnes susceptibles d'être vaccinées. Là aussi, il ne faut pas faire de discrimination de classe sociale, selon Samia Hurst.
Ce qu'on peut dire sur le plan scientifique et sur le plan éthique aussi de cette proposition, c'est comme si on n'admettait plus les tests, mais seulement pour les personnes qui ont peu de moyens financiers. Et ça, évidemment, ça pose un problème aussi. On a une mesure qui introduit une pression plus forte sur certains milieux de la population que sur d'autres. Pour vous donner un exemple, on a depuis pas mal d'années maintenant en Suisse une question qui vient dans les recensements. On demande aux personnes, est-ce que vous avez renoncé à des soins médicaux dans l'année qui vient de s'écouler en raison du fait que vous ne pouviez pas vous payer votre part ? Et il y a une partie significative de la population qui répond oui chaque année. À Genève, on a environ 13% de la population qui répond oui. Parmi les étudiants en médecine à qui je pose cette question annuellement de manière complètement anonyme, c'est à peu près le même taux. Il y a un problème de justice là aussi.
Ce dossier a été réalisé par notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
18h13, et pour être totalement complet, place au sport.
Sport. Avec Young Boys qui entame ce soir en Slovaquie une saison qui risque d'être bien remplie. Le club de football bernois affronte Slovan Bratislava en match aller du deuxième tour de qualification pour la Ligue des Champions. Avant de pouvoir participer à la lucrative compétition européenne interclub, Young Boys devra encore franchir trois obstacles. L'analyse de Marcel Neunschwander.
L'appétit vient en mangeant, dit-on. Young Boys a bouclé la saison dernière avec 31 points d'avance sur Bâle. Sans concurrence notable en Suisse, le quadruple champion national affiche l'ambition de s'affirmer un peu plus sur le plan européen et de participer à la Ligue des Champions. Mais avant de pouvoir atteindre le Graal et la phase de poule, Young Boys a trois obstacles à franchir, à savoir le champion de Slovaquie, Slovan Bratislava, ensuite le vainqueur de la confrontation entre les Roumains de Cluj et le champion de Gibraltar, et enfin, encore, en cas de succès, il restera à disputer un barrage contre un adversaire sans doute plus renommé. La mission n'est pas insurmontable et si tout marche bien, le programme du club bernois sera alors titanesque cet automne avec pas moins de 14 semaines anglaises. Mais sur les bords de l'Aar, la principale discussion de l'intersaison a eu trait au changement d'entraîneur. David Wagner a succédé au coach à succès Gerardo Seone. David Wagner sait que le défi n'est pas gagné d'avance. Ce germano-américain de 49 ans doit composer pour ses débuts avec les absences de longue durée de deux joueurs clés, Fabian Lustenberger et son buteur Jean-Pierre Nsame, qui souffre d'une déchirure du tendon d'Achille. Des absences de poids, d'autant que les départs d'un ou plusieurs joueurs importants pendant la période des transferts internationaux n'est pas à exclure.
Slovan Bratislava Young Boys, 7 à 20h30 ce soir dans la capitale slovaque. La rencontre retour est programmée mercredi prochain à Berne.
Merci beaucoup Stéphanie, et le retour de l'info, ce sera dès demain sur RTN et en permanence sur rtn.ch. Et vous l'avez remarqué, aujourd'hui était une belle journée et il y a quelques cumulus, hein, les traditionnels de fin de journée qui nous accompagnent, mais ils ne vont pas gâcher votre soirée. Et la journée de demain sera aussi pleinement estivale, avec de la fraîcheur en plus le matin, avec le thermomètre qui sera de 11 degrés à l'aube sur les hauteurs du canton et de 14 à 15 degrés sur le littoral, la Broye et le Nord Vaudois. Fraîcheur certes de courte durée puisque les experts de Météo News nous annoncent au meilleur de la journée demain 24 degrés au Locle et à la Chaux-de-Fonds, 27 pour Neuchâtel ou encore 28 à Payerne et Yverdon. Vendredi devrait être le pic estival de cette semaine avec des températures encore en hausse avant l'arrivée d'une dégradation. Ce sera pour samedi, pouvant conduire à des averses et des orages localement violents.